Donc voilà, on m'a demandé de commencer pour essayer d'expliquer un peu pourquoi TD Quart Monde s'intéresse autant à la question de l'école. Donc je vais un peu me présenter l'association, mais je vais essayer de ne pas être long. Donc ma présentation, moi je suis volontaire permanent de l'association depuis longtemps, depuis 35 ans. Donc ça a été pratiquement toute ma vie professionnelle. Et plus que professionnel, parce que pour ATD Quart Monde, les volontaires sont des gens qui essayent de se mettre en situation d'être vraiment proches de la grande pauvreté. ATD Quart Monde, je pense que beaucoup le savent, c'est un mouvement de lutte contre la misère et l'exclusion, qui est international, qui est composé de trois parties. Il y a des volontaires permanents, ce qu'on appelle des alliés dans notre jargon, Benoît Hoge en fait partie, c'est des gens qui ont une activité professionnelle et des engagements dans la société divers, mais qui veulent s'allier avec les gens dans la grande pauvreté pour essayer de faire un monde où chacun a sa place. Donc ils essayent d'être un peu un pont entre les exclus et les autres dans la société pour voir comment recréer une cohésion entre les gens. Et il y a les militants chez ATD Quart Monde, parce qu'on n'est pas un mouvement qui fait des choses pour les pauvres. On n'est pas une association qui fait de l'assistance. On est un mouvement qui essaye de construire le refus de la misère et de l'exclusion à partir. On pense que les premiers qui peuvent agir là-dessus, c'est ceux qui vivent la misère et l'exclusion eux-mêmes, et qu'il n'est pas question de penser qu'on va régler les choses à leur place. Donc à cause de ça aussi, dans les caractéristiques d'ATD Quart Monde, il y a deux choses qui sont déterminantes, qui sont liées au fondateur, qui est quelqu'un qui a connu la misère lui-même dans son enfance. Et donc à cause de ça, il a toujours ressenti le fait qu'être assisté, c'est quelque chose d'humiliant pour les gens. Et c'est pas ça qui permet de s'en sortir vraiment. Donc il a voulu créer un mouvement et il a pensé que le savoir était vraiment un levier déterminant pour agir contre l'exclusion sociale. Vous connaissez tous le proverbe « il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un plutôt que lui donner du poisson ». Parce que s'il sait pêcher, il saura se nourrir par lui-même, il saura être utile, il sera fier de ce qu'il apporte à la société, alors que s'il est maintenu dans une position d'assisté, il est sans arrêt. Hein, j'ai travaillé comme volontaire aussi en Afrique, les Africains disent « la main de celui qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit ». Ça dit bien ce que ça veut dire. Donc pour ATD Quart Monde, le savoir est vraiment quelque chose de déterminant, et notamment le savoir des enfants. Parce que la misère a tendance à se reproduire de génération en génération. Si des gens vivent dans la misère, tous aspirent à ce que leurs enfants ne connaissent pas la même misère qu'eux. Ça, c'est quelque chose qu'ATD Quart Monde a... C'est construit à partir de là. La première aspiration des gens dans la misère, la première façon de les associer à la lutte contre la misère, c'est de s'appuyer sur leur aspiration. Partout dans le monde, j'ai entendu des gens nous le répéter. Nous, ce qu'on veut, même des gens... J'étais 8 ans à Marseille dans une cité d'urgence. Les gens me disaient, tu sais Bruno, tu veux m'aider? T'auras bien du mal à y arriver parce que moi, je suis dedans depuis que je suis petit. Il y a peu de chances que je m'en sorte, mais par contre, aide-moi pour que mes enfants ne revivent pas ce que moi j'ai vécu. Donc ça, c'est quelque chose de très fort, et ATD Quart Monde s'est complètement construit sur cette aspiration-là. Ce qui a permis donc de faire que les gens qui vivent la misère pour ATD Quart Monde, ce n'est pas des gens qu'on aide, c'est des gens avec qui on travaille pour changer des choses, et ça s'applique aussi à l'école. On pense vraiment que si on veut que l'école travaille à la réussite de tous, l'école peut pas instruire les enfants venant de la misère comme si leurs parents étaient des défaillants et que l'école devait faire à la place des gens. Il faut vraiment que l'école arrive à s'associer. Ces familles ont quand même une culture. Elles savent qu'elles seules peuvent pas donner à leurs enfants la réussite parce que des parents qui savent à peine lire et écrire, qui n'ont pas été insérés à l'école... Les adultes du Quart Monde que j'ai rencontrés depuis 35 ans, leur expression favorite sur l'école, c'est « moi, c'était le fond de la classe ». J'étais au fond de la classe quand j'étais enfant. Donc pour ATD Quart Monde, ces deux choses sont vraiment importantes. Le savoir, faire en sorte que les enfants qui ont vécu la misère, et là, c'est intéressant, ça veut dire quoi pour l'école? Ça veut dire que, parce qu'à l'école, on parle beaucoup d'égalité des chances, et nous, ATD Quart Monde, on pense que c'est pas juste, parce que d'abord, les chances sont par nature inégales, et que si on veut que tous les enfants arrivent à la réussite, il faut quasiment donner plus à ceux qui partent avec un. À une époque, on parlait d'handicap. La misère, ça crée quand même un handicap, ça crée des conditions difficiles. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, la
Handicap.
misère, ça crée des conditions peut-être plus difficiles pour apprendre. Alors là, je vais essayer d'expliquer un peu comment à TD Carmo on analyse ça. Pourquoi, si un enfant vient d'un milieu défavorisé, c'est beaucoup plus difficile pour lui de profiter, d'être dans la réussite à l'école? Parce que ce qu'on sait, c'est que ce qu'a dit d'ailleurs le professeur Glasmanière, c'est que si quelqu'un est vraiment dans une situation de dénuement total, évidemment c'est plus difficile, il est dans la survie, les gens vivent au jour le jour. Moi j'ai vu des enfants pour qui construire un projet sur 3 semaines, c'est presque une abstraction, parce que les enfants effectivement vivent au jour le jour, parce que leurs parents ont des soucis quotidiens. Donc ces difficultés, elles existent. Mais pour ATD Carmonde, ce n'est quand même pas la seule explication. On ne peut pas se retrancher simplement en disant c'est à cause des difficultés matérielles des familles que les enfants n'apprennent pas à l'école, parce qu'il y a pour nous d'autres explications qui sont aussi très importantes et que je vais développer maintenant. La première, j'en ai parlé un petit peu hier, c'est le fossé culturel. Si on voit un enfant qui vit dans la misère, moi j'en ai côtoyé beaucoup depuis 30 ans, quand il entre à l'école, quand même, il arrive dans une autre planète que ce qu'il vit chez lui. Il y a un fossé culturel entre les savoirs que donne l'école et les savoirs. Hein, je dis souvent, un enfant, quand il entre à l'école, ce n'est pas une tête vide qu'on va remplir. C'est un enfant qui a déjà tout un vécu d'expérience dans son milieu. Et si l'école fait abstraction de ce vécu d'expérience, pour les enfants, c'est parfois plus dur de donner du sens aux apprentissages de l'école, parce que ce n'est pas raccordé avec leur vie quotidienne. Alors ça touche à plein de petits faits concrets. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans les manuels scolaires? Quelles sont les histoires qu'on raconte en maternelle? Est-ce que les enfants retrouvent leur vie, les soucis de leurs parents, ce qui a construit leur existence depuis qu'ils sont tout petits? Ou bien est-ce qu'ils ont l'impression d'être sur une autre planète, comme je disais tout à l'heure, où c'est un monde un peu irréel par rapport à leur vécu quotidien? Et alors ce fossé culturel, aussi pour les gens vraiment dans la grande exclusion, c'est plus qu'un fossé culturel, c'est aussi un sentiment que l'école regarde mal. Hein, les gens très pauvres nous disent ce qui nous fait le plus souffrir, c'est le regard des autres. Si on nous regarde comme des mauvais parents, tout à l'heure vous entendrez une maman qui dit ça dans l'outil de formation. Moi j'avais du mal à aller à l'école, pourtant la maîtresse elle m'a rien fait, mais j'avais l'impression qu'elle me regardait comme une mauvaise mère. Mais elle m'a rien fait, hein, c'est simplement un sentiment que j'avais en étant en face d'elle. Donc ça pour les parents c'est quelque chose qui est pesant, et parfois sentir, quand on vit dans la grande pauvreté, les jugements de l'école, mais pourquoi les parents font pas ça, mais pourquoi les enfants n'ont pas fait les devoirs, mais pourquoi quand il arrive à l'école le matin et il est complètement endormi, on voit pourquoi les parents l'ont laissé regarder la télé la moitié de la nuit et qu'il est même pas réveillé le matin quand il arrive à l'école. Il y a plein de façons dont l'école peut renvoyer un sentiment de jugement. L'enfant sent que sa famille, elle n'est pas vraiment appréciée, elle n'est pas vraiment reconnue et valorisée à l'école. Donc voilà, alors ce fossé culturel, pour des enfants très défavorisés, il y a des sociologues qui parlent d'ailleurs de conflit de loyauté. Si un enfant sent que son milieu n'est pas respecté à l'école, que ses parents sont jugés démissionnaires, incapables, des fois il s'ajoute des histoires de menaces de placement d'enfants. Et là, c'est encore plus douloureux pour les familles, parce que si on vous retire vos enfants pour les mettre dans une famille d'accueil, c'est vraiment qu'on vous voit comme des mauvais parents, pas capables eux-mêmes de donner ce qu'il faut à leurs enfants pour qu'ils grandissent bien. Donc c'est dur pour les familles. Et dans ces cas-là, ce conflit de loyauté, donc ça peut amener des enfants. Moi, j'observe des enfants où, à mon avis, ils ne sont pas handicapés ni rien, mais ils sont dans un refus d'apprendre. Ils sont dans un choix à faire. Ou bien je reste du côté de ma famille, ou bien j'investis dans ce que me propose l'école. Mais les deux sont guère compatibles, parce que justement l'école, c'est un autre monde que celui de chez moi. Et non seulement c'est un autre monde, mais c'est un monde qui a une attitude de rejet par rapport à mon milieu. Donc ça, pour certains enfants, c'est compliqué et ça va jusqu'à un refus, un blocage par rapport à l'acceptation de ce que l'école propose comme savoir, comme façon de s'ouvrir au monde. Parce que je le disais hier. Pour se construire, pour apprendre, un enfant a besoin d'être fier de ses racines. Et si l'école a l'air de dire à l'enfant d'où tu viens, ça vaut rien, et nous, on va faire quelqu'un de toi, pour l'enfant, c'est un choix qui est quand même très difficile à accepter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais parler, c'est les enfants venant de milieux défavorisés, à cause de la compétitivité quand même de notre système éducatif, arrive très vite à avoir des jugements. T'es plus faible, t'es moins bon, t'es pas aussi bien que les autres, tu travailles pas bien, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas appris tes devoirs. Donc il y a très vite un sentiment de dévalorisation d'enfants parce qu'ils sont plus faibles que les autres. Et ça pose la question de la manière dont l'école s'y prend pour évaluer le travail scolaire. C'est pas parce qu'un enfant est plus faible qu'un autre qu'il est nul. Et l'école a développé, d'ailleurs, il y a des équipes freinées qui ont développé des systèmes d'arbres de connaissances, etc., pour trouver une manière de montrer à un enfant que s'il a fait un effort, s'il a progressé, c'est qu'il a gagné quelque chose en autonomie, en développement personnel. Et c'est pas parce qu'il est toujours un peu en retard sur d'autres qui apprennent plus vite que lui qu'il faut le dévaloriser sans cesse. Et cette dévalorisation, elle peut être grave, hein. Et certains d'entre vous sont dans des lycées professionnels ou dans des collèges. Moi, j'ai rencontré des gamins qui intégraient l'idée qu'ils étaient nuls. Donc c'était vraiment leur estime d'eux-mêmes qui était dégradée. Et dans ces cas-là, si un enfant se croit nul, pour le faire travailler, ça devient vraiment très dur. Parce que si on croit qu'on va pas y arriver avant de commencer, évidemment, on arrête l'effort et alors on essaie de se valoriser par d'autres manières. Il y a des gamins qui disent, oh, moi je suis trop bon pour eux. Et ils trouvent toutes sortes de façons de montrer leur existence à l'école, diverses et variées. Mais quand même, il y a une grande souffrance. Hein. Se croire nul, c'est vraiment l'estime de soi d'une personne qui est atteinte. Et Amourpas, on va en parler tout à l'heure, on a travaillé là-dessus. Les parents, souvent eux-mêmes, manquent de confiance en eux, croient que ce qu'ils peuvent apporter à l'école, personne s'y intéresse. Moi, j'ai vu des militants d'ATD dans leur cheminement être sidérés le jour où, devant un public, ils ont parlé et qu'on les a écoutés. Et on revit ça quand on fait participer des militants à des formations en IUFM ou autre. C'est toujours un étonnement pour eux de dire, tiens, c'est pas possible. D'habitude, on est tous les parents et il y a un prof. Là, c'est moi qui suis là et tous les profs m'écoutent. Pour eux, c'est une sidération complète de voir que leur parole intéresse vraiment les autres, qu'elle peut aider les autres à progresser. Donc il y a ce travail de donner une confiance en soi aux parents, et on a vu aussi à Maurepas que ça passe des parents aux enfants. Si les parents manquent de confiance en eux-mêmes, nous on a vu des parents nous dire, mais moi quand j'étais gosse, ma mère elle me disait que j'étais la reine des nuls. Donc il y a aussi dans les familles aussi, des fois, si des parents ont vécu une dépréciation d'eux-mêmes, le sentiment qu'ils n'y arriveraient pas, il arrive aussi qu'ils reportent cette chose-là sur leurs enfants. Et à ce moment-là, les enfants eux-mêmes, qui sentent leurs parents complètement sans confiance, il y a Vaughn qui le dit tout à l'heure dans le film, vous verrez, au début je voulais pas aller à l'école parce que je pense que j'aurais fait honte à mes enfants si je me pointais comme parent à l'école. Mes enfants n'auraient pas été fiers de moi, vous verrez comme elle explique ça. Donc ça, c'est une chose importante. Un autre point qui me paraît très important, c'est les relations entre les enfants eux-mêmes. Hein, les enfants des familles qu'on connaît à l'école, ils ont souvent le sentiment que les autres gamins les rejettent. Et si un enfant, et ils disent d'ailleurs, et les parents le disent aussi, un enfant qui n'est pas accepté par les autres dans la classe, il ne peut pas apprendre. Parce qu'on a besoin de se sentir respecté, et ça pose toute la question des pédagogies coopératives. Comment on fait pour que les enfants, dans une classe, ils aient envie d'apprendre ensemble, et que s'il y en a un plus faible que les autres, il y avait ça dans les choses de la fève hier, les parents qui souhaitaient que l'école cherche comment faire pour aider les élèves les plus faibles. Mais les élèves entre eux pourraient s'aider aussi là-dessus. Si les gamins dans une classe n'acceptent pas qu'il y en a un qui reste en rade, hein, j'ai souvent raconté un exemple d'une maîtresse en sixième, une maîtresse de français, où au conseil de classe du mois de décembre, on dit à propos de deux élèves de sa classe, ceux-là, c'est sûr qu'à la fin de l'année, ils vont redoubler. Le lendemain, elle est rentrée dans sa classe, les élèves, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit au conseil de classe? Elle leur a dit, ben, ils ont dit que eux deux, Marie-Jo, Didier, c'est sûr qu'à la fin de l'année, ils vont redoubler, mais moi, j'ai pas dormi de la nuit. Et c'est pas normal qu'au mois de décembre, on décrète à l'avance qu'ils n'y arriveront pas. Et si on se mobilise pour les aider, je pense qu'ils pourront y arriver. Et de fait, Marie-Jo et Didier n'ont pas redoublé à la fin de l'année parce que la classe s'est mobilisée pour les soutenir. Donc ça, je pense que c'est important. Et là, il y a des choses quand même encore aujourd'hui. Hein. J'ai vu des histoires dans des collèges de milieux ruraux, par exemple, où une fille, elle traîne toute sa scolarité, qu'elle est tous les autres de sa classe la traitent de pouilleuse. Et quand les enseignants se sont intéressés pour savoir ce qui se passait, ils se sont aperçus, les élèves lui ont dit, mais madame, celle-là, c'est depuis le CP que sa famille, on l'a. sa famille, elle est comme ça, c'est les pouilleux. Et à Maurepas, plusieurs fois, les histoires de poux sont revenues dans les réunions du groupe de parents. Donc ça peut paraître de l'histoire ancienne, mais ce n'est pas de l'histoire ancienne. C'est du vécu, et pour les parents, être désignés comme ceux qui amènent les poux à l'école, ça veut dire on est les parents malpropres, c'est tout un contexte là derrière qui est très très humiliant pour les gens. Donc voilà ces points. Et le dernier point sur lequel je voudrais dire aussi, je pense qu'il y a une chose aussi qui est très culpabilisante pour tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont les enfants grandissent n'est plus la même que celle qu'on a vécue, nous, quand on était enfant. La société a changé, les enfants intègrent des savoirs, ils passent plus de temps, certains, à la télé que devant la télé qu'à l'école. Et ça veut dire que le comportement des gosses a changé, que beaucoup de parents sont désemparés de ce que deviennent leurs enfants. L'autre jour, j'étais en Seine-Saint-Denis, où des principaux de collège expliquaient que des mamans qui élevaient seules leurs enfants, qui étaient au collège, étaient désemparées, ne savaient plus, étaient désemparées par ce que devenait leur gamin. Elles perdaient vraiment la relation, la relation de la mère avec ses gamins, ados, devenait très 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 difficile. Et le collège a organisé des groupes de parents uniquement pour ces mamans-là, des mamans célibataires, pour qu'elles arrivent à échanger entre elles et à comprendre comment elles pouvaient faire pour renouer avec leurs jeunes, etc. Donc pour les parents, des fois, la façon dont les enfants sont aujourd'hui est très culpabilisante, et pour les enseignants aussi, ceux qui sont à Maurepas, au début du projet, il y a des enseignants qui nous disaient « Moi, je passe 75% de mon temps à faire la discipline dans la classe, et les apprentissages, il ne me reste que 25% du temps pour les faire. » Parce que les enfants zappent, ils bougent tout le temps, je veux tout tout de suite, c'est impossible de les faire se concentrer sur un effort durable. Or, les apprentissages, y arriver, si l'enfant ne sait pas le concentrer, on ne peut pas y arriver. Donc vous voyez toutes les histoires qu'on a dans les classes, les enfants hyperactifs, machin, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et des deux côtés, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui vivent ça comme une souffrance, de ne pas savoir comment faire avancer des gamins. Beaucoup de parents le vivent. Et hier, le professeur Glassman disait, tant qu'on reste dans la culpabilisation sur ce sujet-là, on n'avance pas, parce que l'enseignant qui est culpabilisé, il va se replier sur lui-même, et le parent qui est culpabilisé, il va s'isoler, et il ne va pas non plus aller chercher un échange avec d'autres pour sortir de sa situation et arriver à être mieux avec son enfant. Donc là, je pense qu'on ne prend pas assez en compte que le monde a changé, que les enfants ne grandissent plus qu'entre l'école et la famille, et qu'il y a tout un univers. Au collège de Maurepas, à un moment donné, le centre de documentation a fait toute une enquête et ils se sont aperçus que les filles du collège s'intéressaient beaucoup plus à préparer un casting pour la Star Academy que à ce qu'ils apprenaient en classe au collège. Ça veut dire que les enfants, certains jeunes, mettent leur avenir ailleurs que là où nous, on le voit. Et si on ne cherche pas à comprendre ce qu'il y a dans la tête de ces enfants pour les faire avancer, on a beaucoup de chance de ne pas arriver, il y a une confiance qui se perd. Les adultes, il y a des experts qui disent ça, un enfant, il grandit entre sa famille, l'école, et la rue, et l'univers de ses copains, etc. Et si tous ces mondes-là sont des mondes qui ne sont pas cohérents les uns vis-à-vis des autres, l'enfant, il est perdu, il construit son avenir d'une manière complètement décousue, avec une perte de confiance dans les adultes qui sont autour de lui, parce que les adultes, il y en a un qui le tire dans un sens, il y en a un qui le tire dans l'autre sens, et il n'y a pas de dialogue. Donc voilà comment on comprend les choses. Il ne faut pas que je déborde mon temps. Il y a Benoît qui est là à côté de moi qui commence à s'agiter, et Benoît est trop long. Mais tout ça, ça veut dire quand même, ça implique des choses au niveau de la relation avec les parents. Parce que comment faire pour réduire ce fossé culturel? C'est sûr qu'il faut arriver à ce que l'école connaisse mieux ces milieux-là. Les gens les plus éloignés de l'école, c'est quand même pour eux que la réussite des enfants est la plus difficile à faire. Et s'il n'y a pas un dialogue, nous on pense que l'école doit avoir un investissement. C'est pas à Maurepas, on a beaucoup discuté de ça. Il y a TD, vous parlez tout le temps des plus éloignés, des plus pauvres, etc. Attention, on risque de les stigmatiser en faisant comme ça. Non, le but n'est pas de stigmatiser, c'est de savoir que si on veut comprendre ces gens-là, on a un chemin plus important à faire nous, parce que c'est pas notre monde. Même moi, les gens dans la misère m'ont souvent dit, tu sais Bruno, t'as pas vécu la misère, tu comprendras jamais ce que c'est. Et ils ont en partie raison. On peut essayer de se rapprocher, de comprendre les insécurités que vivent les gens, etc. Mais on n'est pas dedans. Et en plus, j'ai pas envie d'être dedans. On n'a pas de raison d'essayer de ressembler à des gens qui vivent des choses, au contraire, qui touchent leur dignité. On voudrait plutôt qu'eux puissent vivre mieux, plus stable et plus dignement, plutôt que nous essayer de faire comme si on était comme eux. Mais il y a tout un travail à faire et la connaissance des gens, ça ne veut pas dire qu'on demande aux enseignants de se mettre à être des assistantes sociales ou autres. Ça veut dire qu'on peut connaître sans faire d'immission dans leur vie, en respectant des choses sur la confidentialité. On n'a pas besoin de tout savoir sur la vie des gens. Mais par contre, si on veut aider un enfant à se construire, on a besoin de savoir d'où il vient, on a besoin de lui donner une fierté sur ses origines. Et comment rendre un enfant fier de ses parents? On travaille beaucoup là-dessus en formation. On est sûr que là, il y a une clé. Si l'école savait donner aux enfants une fierté de leurs origines, les enfants apprendraient beaucoup mieux et grandiraient beaucoup mieux à l'école. Voilà, j'arrête là, je vais laisser Benoît expliquer comment on en est venu à faire un projet dans ce quartier à Maurepas.
Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le temps est très contraint, donc je vais très peu parler là, d'autant plus qu'il y a un petit film d'une demi-heure qui décrit le projet de Maurepas, donc je ne vais pas paraphraser ce qu'il y a dans le film, parce que je veux qu'on puisse garder au moins une demi-heure pour discuter du projet et peut-être des conceptions d'ATD telles que les a écrites Bruno. Donc juste quelques mots pour introduire le film qui décrit assez bien le projet. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc je suis Benoît Hoge, marqué ancien directeur adjoint de l'UFM de Bretagne. J'ai été pendant 15 ans. Et effectivement, comme l'a dit Bruno, je suis un allié. J'ai connu le mouvement ATD Quart-Monde, je dirais, en tant que professionnel, parce que ben, certains d'entre vous, peut-être les plus âgés, se souviennent peut-être qu'au siècle dernier, le ministère avait travaillé sur cette question. Il y avait un groupe qui, au niveau national, qui s'appelait Famille, École, Grande Pauvreté, ou Grande Pauvreté, Réussite Scolaire. Même dans le cas précis, c'était Grande Pauvreté, Réussite Scolaire. Et au niveau des curiosités biographiques, le responsable de ce groupe pendant une période, ben, c'est le directeur de la DGESCO actuelle, Jean-Paul Delahaye. Donc ça peut être intéressant de savoir, alors je pense qu'il se souvient du travail qu'on a pu faire ensemble il y a un certain temps. Donc, on avait un groupe à Rennes, un petit peu bizarre, parce qu'il était à la fois institutionnel et militant. Moi, j'aime bien toujours les structures un petit peu comme ça, où des choses inattendues se croisent. Je disais, il était institutionnel et militant, parce qu'on y retrouvait, au niveau institutionnel, un représentant de l'UFM. J'y étais donc ex-qualité, j'étais désigné par le directeur. Il y avait un représentant ou une représentante du recteur. Il y avait un représentant de la ville de Rennes. Et puis, petit à petit, d'autres se sont ajoutés. L'université de Rennes 2, parce qu'on voulait que la recherche soit présente. Et il y avait Pierre Perrier, que certains d'entre vous connaissent au moins par ses ouvrages, qui était dans le groupe. Et puis, la FCPE nous a rejoint au bout d'un moment en disant, ben, ça nous intéresse parce qu'on est censé représenter tous les parents, mais les parents qui vivent dans la grande pauvreté, ben, ils sont pas forcément adhérents chez nous. Et donc, ce serait bien qu'on puisse y travailler. Et puis, ça, c'était plutôt institutionnel, sauf pour la FCPE, une association militante. Et puis, côté ATD Quart-Monde, il y avait les trois catégories dont a parlé Bruno, et c'était très important, puisque dans le groupe, il y avait des militants, donc des gens qui vivaient des situations difficiles. Et ce groupe, il se réunissait 3-4 fois par an et on donnait toujours la parole au début à ces familles. Et c'était extrêmement riche et étonnant pour quelqu'un de la FCPE ou quelqu'un de la ville de Rennes d'entendre les témoignages de ce que vivaient ces familles, les difficultés qu'ils rencontraient à l'école. Donc ça, c'était toujours le premier temps de notre réunion. Le deuxième temps, c'était tout simplement d'analyser des demandes de formation qui nous arrivaient, extrêmement diverses. Alors de l'UFM, bien sûr, puisque j'étais bien placé pour faire le pont. C'est l'alliance dont parlait Bruno. À l'UFM de Bretagne, on a toujours réussi à avoir des modules sur les relations famille-école et en utilisant toujours, effectivement, les familles les plus éloignées de l'école, en faisant hypothèse que si on arrivait à régler une partie des problèmes de ces familles, peut-être que les autres en bénéficieraient. Des demandes en formation initiale, en formation continue. Et puis, au bout d'un moment, ben, le groupe, il a continué au-delà des décisions du ministère, parce que le groupe national, il avait disparu depuis longtemps, dès le retour de la droite. au pouvoir. Et nous, on a continué à faire fonctionner le groupe. Et les recteurs successifs, ben, on se débrouillait que quand celui qui partait, il trouve quelqu'un d'autre pour le remplacer. Puis il disait au recteur, il y a ce travail-là. On n'a jamais eu de problème de ce point de vue-là. Que ce soit des recteurs sous la droite ou la gauche, le groupe a toujours eu un représentant du recteur. Et ça, c'était très, très important. Pour l'UFM, c'était peut-être plus facile. L'université aussi. Donc, on avait fait un outil de formation. Certains d'entre vous l'utilisent ou l'ont utilisé. Isabelle me rappelait qu'elle continuait à utiliser. C'est un document qui s'appelle « C'est même pas le même regard ». Et c'est très simple. C'est 5 témoignages. 3 témoignages de parents du quart monde, de militants du quart monde. Une enseignante du premier degré et une principale de collège. Sur cette question, la difficulté de la rencontre entre l'école et les familles, notamment les familles qui vivent dans la grande pauvreté. Donc, vers 2006, on se dit, ben, on porte la bonne parole avec nos outils de formation, en disant ce qu'il faudrait peut-être faire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire. Est-ce que nous, on serait capable de mettre en œuvre ce qu'on raconte ? Ça semble assez cohérent. Et donc, notre choix est arrivé sur le quartier, un quartier populaire de Rennes, le quartier de Maurepas, où ATD Quart-Monde avait quelques militants, quelques alliés, et puis une école assez ghettoisée, l'école Tréguin, on va en parler un certain temps, puis une autre école du quartier où la mixité sociale était encore assez importante, l'école des Gantelles. Donc, on est parti dans cette aventure avec 6 partenaires. Et là, j'insiste sur la question du partenariat. On verra dans le débat ce qui a permis de surmonter les difficultés. Les 6 partenaires, on va les retrouver. C'est ceux que nous avions dans le groupe École Famille Grande Pauvreté. Donc, il y avait la ville de Rennes. Fondamentale, bien sûr. L'inspection académique, évidemment, ça se passait dans les écoles, ça aurait été impossible sans elle. Ça, c'était... Et le troisième partenaire moteur, évidemment, ATD Quart-Monde. Ensuite, 3 autres partenaires très présents. L'IUFM de Bretagne. Il y avait l'AFCPE. Qu'est-ce que j'oublie ? Non, je crois que j'ai fait le tour. L'université, hein, puisqu'on souhaitait Pierre qu'il y ait Perrier, une dimension recherche. Donc Pierre Perrier, avec un rôle assez particulier, il n'était pas ni le pilote, ni l'évaluateur, mais il menait une recherche parallèle à notre travail. Donc voilà comment est partie l'aventure, mais le mieux maintenant, c'est de la regarder racontée par ses acteurs.
Voir comment l'école peut contribuer par ce qu'elle fait à faire reculer la misère et l'exclusion, ce qui est le but premier du mouvement ATD Quart-Monde.
On voulait montrer que des choses étaient possibles, même modestes, avec des moyens qui ne sont pas extraordinaires. Les écoles géraient normal, il n'y a pas eu de moyens supplémentaires de donner, mais qu'on peut faire des choses.
C'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une meilleure compréhension entre les parents et les enseignants pour essayer de faire en sorte que les élèves vivent mieux à l'école.
Qu'est-ce que je pense déjà pu révéler ? Je pense qu'il a pu révéler le réel intérêt que les parents portaient à la réussite de leurs enfants.
Aucun parent n'est désintéressé. Tous les parents se battent comme ils peuvent, selon leurs moyens, à leur niveau, avec l'instruction qu'ils ont eue ou pas, parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école.
Ce travail-là doit permettre de travailler la triangulation éducation, citoyenneté, démocratie.
En début 2007, pendant les 6 premiers mois, on a eu une 50aine de rencontres dans le quartier avec tous les partenaires, les directeurs d'école d'abord, les enseignants ensuite, le centre social, la maison de quartier, la direction de quartier, la ville dans le quartier, la réussite éducative. Tous ces gens-là ont été consultés pour qu'on voit si ce projet, ils y adhéraient.
Et donc, le projet qu'on a développé sur le territoire de Maurepas vise à une reconnaissance mutuelle des uns et des autres, et surtout de la place qu'ont les parents de leur côté en tant qu'éducateurs des enfants, et de la place qu'ont les enseignants en tant qu'éducateurs aussi des enfants du quartier de Maurepas, de la place et de la légitimité de chacun d'intervenir et de collaborer pour la réussite des gamins.
On a senti pas mal de réticence au départ de la part des parents pour s'impliquer dans un tel projet, où c'était un petit peu théorique, un petit peu décalé de leurs préoccupations au quotidien. Donc ça a été un petit peu compliqué au départ de les mobiliser et leur permettre de s'exprimer.
En fait, entre les réunions, donc on était deux, Bruno et moi, à aller voir les parents dans le quartier chez eux pour les tenir au courant de ce qui se disait dans les réunions, prendre un petit peu de leurs nouvelles, savoir comment ça allait et les encourager à venir aux réunions pour rencontrer les autres parents. Et en fait, ça, c'est vraiment, c'est un peu un côté du travail qui se voit pas forcément, puisque ça se passe au domicile des gens. Mais il a pu se passer beaucoup de temps. En fait, soit les parents viennent à l'école et puis après ils mettent plus les pieds selon comment ça se passe. Et après ils restent distants de l'école pendant très longtemps. Donc ils viennent et puis après ils se rétractent, soit c'est très long pour les faire venir même dès la première fois en fait. Et avec des parents, il a pu se passer un an et demi, deux ans avant qu'ils acceptent de venir à une réunion.
C'est possible de décharger sa responsabilité à l'école plutôt.
Décharger ou déléguer?
Enfin, déléguer, oui.
Je sais pas,
c'est déléguer, je sais pas, même tout, il y a peut-être certains, c'est tout.
Je sais pas, je pose la question justement.
Donc on se débarrasserait de son enfant.
Voilà, un peu, pendant le
soir. Wow, c'est fort. Après, bon, mais... Non, je vais pas être d'accord avec toi.
Ça dépend des parents peut-être.
Absolument, mais moi j'ai pas cette vision là. Je peux pas me dire que si y a aussi ça,
c'est normal de déléguer, de toute façon c'est clair. On délègue pendant le temps.
Entre déléguer et se débarrasser, c'est différent.
Oui,
débarrasser, c'est pas un paquet, c'est pas un colis, c'est ton enfant. Je le dépose pour qu'il s'instruit. Je m'en débarrasse parce qu'il m'ennuie. Donc je ne crois pas qu'à 9h le matin, je me débarrasse de lui. Je le dépose. Je vais déléguer les problèmes qui vont l'entourer. Parce qu'il a des soucis, parce qu'il est turbulent, j'en ai parlé à la maîtresse, parce que j'arrive pas à lui faire faire sa chambre. Parce... On va échanger avec toi en tant que papa. Comme ça, si tu as des clés, quelque part dans l'échange qu'on va avoir, tu vas peut-être avoir une façon chez toi de faire les choses. Tu vas me la dire et quelque part, tu me transmettras des clés pour que je puisse moi aussi y arriver à la maison.
Dès le début, on a pensé que si des parents avaient du mal à franchir la porte de l'école, le fait d'être seul pour franchir la porte, c'était un des obstacles.
On a fait tout un travail de communication, de lien, d'aller vers les gens, d'information sur ce projet-là. On a pu aussi définir un certain nombre de réunions par anticipation où on pouvait dire aux parents, tel jour on va aborder la question de l'histoire des parents, un autre jour la réussite des enfants, l'épanouissement, qu'est-ce qui se fait au sein de la classe. Voilà, un certain nombre de thèmes de réunion qu'on proposait aux parents et ce qui permettait aux parents de se dire, ah oui, ça m'intéresse, je vais venir. Ou, voilà.
Marie d'Athée des Quart-Monde, Bruno d'Athée des Quart-Monde également. Des parents d'élèves, et il y avait également David Chant, et donc suivant, on va dire, un ordre du jour, il y avait des propositions qui étaient faites par les parents qui apportaient des réflexions, mais l'ordre du jour, la réflexion n'était pas cloisonnée sur cet ordre du jour. Comme je disais, il y a l'éducation, c'est pas une science exacte.
Moi, ce que j'ai apprécié au niveau des réunions, c'est que si par exemple moi je parlais et que ma voisine ou mon voisin avait quelque chose à dire, il attendait toujours que j'ai terminé. Et en général, c'était mon voisin, on voyait qu'il avait envie de parler, il levait le doigt ou c'était moi j'ai quelque chose à dire. David, il disait, et un tel, tu peux prendre la parole. Je suis jamais ressortie avec une tête comme ça.
Comment réfléchir à un peu casser ce côté où quand on vient à cette réunion, on fait partie de cette catégorie socio-professionnelle.
Porteur d'image, quoi. Porteur voilà. D'image.
Comment casser un peu ça? Est-ce que il faudrait pas, je sais pas, faut réfléchir à une façon de présenter autrement peut-être cet espace. Peut-être que ATD Quart-Monde, je pointe pas du doigt ATD Quart-Monde, mais peut-être que la présence de ATD Quart-Monde, peut-être que c'est ce qui fait que les gens sentent que peut-être que c'est réservé pour entre guillemets les catégories socio-professionnelles inférieures, peut-être, hein, je sais pas.
Moi, je pense que justement ce que tu dis, Marie-Louise, c'est justement avec ATD Quart-Monde, ne pas accabler justement ATD Quart-Monde,
mais
peut-être justement, non, justement, ce que tu disais, c'est peut-être essayer justement de faire entendre.
à certaines catégories de personnes que ATD Quart-Monde n'est pas là que pour les classes sociales soi-disant basses, mais pour tout le monde. Et que ce qui concerne moi qui est au chômage peut très bien concerner une personne qui est ministre ou je sais pas quoi.
Bien sûr, puisque ça regarde les.
Donc ça regarde tout le monde, puisque c'est tous les enfants qu'on a. C'est pas.
Il y a Florence qui voulait parler.
Moi je suis pas tellement d'accord.
Vas-y.
Quand on parle de la kermesse.
Oui.
Là ça fait partie de la vie scolaire.
Bien sûr.
Ici c'est une démarche.
Oui.
Faut que les gens viennent d'eux-mêmes.
Pas. Je sais pas, je trouve que plus ça va, plus l'école elle est distante des parents. Moi je me souviens, moi c'était pas comme ça, il y a 30 ans, c'était. Il y avait de la communication.
Maintenant on va donner la parole à Madame Lancelot.
Bonjour, je m'appelle Von Lancelot, je suis ancien parent délégué de l'école des Gantelles. Je vais vous expliquer. Pourquoi j'étais amenée à participer au projet? Parce que moi-même, quand j'étais petite, ben, je n'aimais pas l'école. Et parce que je trouvais aucun intérêt d'aller à l'école. Donc c'est vrai que quand mes grands étaient à l'école de Tréguin, parce que j'habitais dans la grande tour de Morpa, il y a eu une enseignante qui a su me porter. Elle a eu un regard un peu sur moi. Elle m'a parlé un petit peu au portail et c'est ça qui m'a déclenché quelque chose qui fait que j'ai trouvé quand même un intérêt de venir à l'école. Bizarrement, j'ai compris que mes enfants aimaient l'école, eux, contrairement à moi. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi eux, ils aimaient l'école. Ils ont bien appris. Et donc petit à petit, je me suis en fait l'enseignante, elle a su m'apprivoiser.
On s'est centré sur les deux écoles du quartier, l'école des Gantelles et l'école Tréguin, qui n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques. L'école des Gantelles a encore une assez grande mixité sociale, ce qui est moins le cas pour Tréguin. On a eu le plaisir de trouver une douzaine d'enseignants des deux écoles, aussi bien de la maternelle que de l'élémentaire, qui ont accepté de se lancer dans l'aventure.
Ce que l'on va faire ensemble, c'est de vérifier d'abord si on est bien d'accord sur les formulations. Alors, quand je dis d'accord sur les formulations, c'est pas au niveau de la virgule, il y a peut-être des fautes d'orthographe, il y a peut-être des maladresses au niveau du français, ça on peut le dire en passant. Mais c'est plutôt sur l'idée d'ensemble qu'on aimerait avoir votre accord. Ça n'empêche pas de faire ces remarques-là. Et puis, surtout, est-ce qu'il manque, selon vous, des choses importantes?
Nous préparions avec donc Yannick Merlin, pour celui qui a terminé avec moi le projet, un thème souvent qui avait déjà été évoqué dans les réunions d'enseignants. Et puis, chacun apportait non seulement la réflexion sur le thème, mais aussi progressivement, et ça c'est plus difficile à obtenir, ses propres réalisations. Je pense à une des réunions où on parlait de comment communiquer avec les parents. Question évidemment majeure quand on parle de la relation parent-enseignant, comment communiquer? Communiquer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et donc, on s'est dit, ben, pour communiquer à l'écrit, chacun va amener les documents qu'il utilise, très simplement, les courriers, les cahiers, tout ce qu'il fait pour communiquer par écrit. Eh bien, on a eu le plaisir de constater que tout le monde a pu apporter très tranquillement, sans avoir peur de se montrer un petit peu meilleur que les autres ou de montrer ses difficultés.
Je me disais, mais ça marche pas du tout, qu'est-ce qui va pas? J'arrive pas à bien communiquer avec les parents, pourquoi? Et je me suis rendu compte que le papier, on nous dit à l'UFM, mettez des papiers dans le cahier de correspondance, tout ça. Enfin, j'exagère un peu, je caricature, mais c'est un peu ça. Et en fait, j'ai toujours travaillé en ZEP, donc j'ai été vite confrontée aussi aux problèmes des difficultés relationnelles, entre guillemets. Mais ça m'a permis d'aller un peu plus vite, peut-être. C'est-à-dire que je me suis tout de suite dit, bon, va falloir qu'on passe par un autre biais que l'écriture, je trouve que ça marche pas. Et bon, j'ai essayé de discuter au portail et je me suis rendu compte que c'est ce qui marchait le mieux. Moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec une maman qui ne parlait pas bien le français. Je lui disais, écoutez, si j'étais formée pour pouvoir comprendre un enfant, communiquer avec lui, je pense que je vais essayer de trouver les mots. Si on est capable de s'adapter, on doit s'adapter. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser le même vocabulaire avec une personne qui s'exprime très bien en français avec une personne qui a plus de mal.
Souvent, la barrière, c'est le langage qui n'est pas le même. C'est-à-dire que c'est beaucoup des parents étrangers qui ne maîtrisent pas forcément bien la langue française ou d'autres qui ont peur de la barrière entre l'enseignant et le parent d'élève, qui mettent toujours la barrière, qui voient toujours en fait une différence, que ce soit d'éducation, de langage, de communication, entre les deux.
Par exemple, il y a une maman qui a dit, qui a osé dire, mais après je ne sais pas combien de réunions, peut-être après 2 ans de travail, en venant aux réunions plus ou moins régulièrement, qui a osé dire qu'il y a des mots qu'elle ne comprenait pas, des mots comme cursus ou art plastique, que les enseignants ou la directrice utilisent et qu'elle ne comprenait pas. Donc on peut imaginer combien de fois des parents viennent à l'école et peut-être repartent comme ça en n'ayant pas compris des choses et en n'ayant pas osé dire j'ai pas compris ce que vous avez dit.
La relation entre parents et enseignants est une relation qui permet de se bagarrer contre les inégalités aussi. C'est-à-dire que très concrètement, quand on n'est pas dans l'association, dans l'alliance entre les différents acteurs de l'éducation, le gamin se trouve perdu. Souvent perdu au milieu des points de vue différents, des confrontations, des conflits, qui ne sont pas des éléments qui lui permettent d'avoir un cadre structurant pour son épanouissement.
Chaque famille peut être un cas particulier. On peut avoir ce qu'on va appeler des situations complexes, on peut avoir une multitude de facteurs qui font que cette communication entre enseignants et parents se passe mal et laisse des frustrations.
Souvent, les familles ne se sentent pas toujours bien reconnues et respectées à l'école. Hein, on parle de parents démissionnaires, on parle de parents qui ne font pas ce qu'il faut pour que les enfants fassent leurs devoirs, on parle de parents qui ne viennent pas. Justement, ces enfants-là, les enseignants, au début du projet, disaient souvent, c'est ces enfants-là qui ont le plus de difficultés à l'école, c'est les parents de ces enfants-là qu'on n'arrive pas à voir.
Les parents ont bien dit, ont exprimé le sentiment que parfois ils avaient le sentiment que l'école leur renvoyait l'image de parents qui ne faisaient pas bien leur travail, qui ne s'occupaient pas de leurs enfants, puisque les leçons n'étaient pas faites, puisqu'il y avait ci qui n'était pas ça, il y avait tel problème qui était rencontré à l'école. Et donc comment dépasser le fait qu'ils ont bien manifesté le fait qu'eux, ils veulent le bonheur de leur enfant et la réussite de leur enfant, mais sauf que tout le monde ne met pas la même chose derrière le mot réussite de son enfant.
Qu'est-ce que c'est que la réussite des enfants? Tous les enfants peuvent réussir. Spontanément, on pourrait penser à la réussite scolaire. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes qu'on nous donne ministérielles pour savoir si les enfants ont atteint les objectifs du CM2 ou du CE2, et puis les parents aussi veulent que leurs enfants apprennent à lire, écrire, compter, et c'est bien normal. Mais ça peut-être paraître curieux à d'autres qui connaissent pas forcément le milieu enseignant, mais les enseignants avaient une réflexion très large du mot « réussir ».
Voilà, donc une quarantaine de rencontres par an. Il y a eu, je dirais, une quinzaine de rencontres enseignants en parallèle qui ont été menées par Benoît Hodge, qui travaille à Télé Quart Monde, et Yannick Merlin, coordonnateur ZEP, qui, eux, de leur côté, ont animé des rencontres enseignants où ils abordaient un certain nombre de problématiques qui étaient aussi reprises en rencontres par an et inversement. Et toutes les fins d'année scolaires, on organisait des temps de rencontres parents et enseignants sur des objets travaillés ensemble. Et donc, on pouvait aborder un certain nombre d'idées telles que la réussite de l'enfant, l'histoire que peuvent avoir les parents avec l'école, les enseignants, leur manière de faire dans la classe.
Et un enfant ne progressera que s'il est content de venir à l'école le matin. S'il vient à reculons, on a beau avoir les meilleures méthodes pédagogiques, il ne progressera pas. Donc il faut qu'il ait envie de venir. Et quand il a envie de venir, il y a plein de choses qu'il apprend sans forcément faire d'efforts, sans s'en rendre compte. Et s'il met un petit effort supplémentaire, il découvre plein de choses. Donc je pense surtout à cet âge-là, il faut qu'on arrive à leur donner envie de chercher, envie de, ouais. de découvrir, qu'on cultive leur curiosité.
Mmh. Et c'est intéressant cette dimension du plaisir que tu...
Oui, je pense que
c'est un moteur, enfin pour nous on le constate, c'est forcément un moteur d'apprentissage très 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 puissant quoi.
Je dirais ce que a dit l'enseignant que je disais, je dirais que c'est quelque part un commencement de la réussite scolaire. Si, si l'enfant prend plaisir à y aller,
ouais.
quelque part
ça va aller tout seul,
c'est le processus.
Ouais.
Ouais.
Mmh.
Et petit à petit comme ça, au fil des réunions du groupe de parents, des rencontres par enseignants qui ont été moins nombreuses, mais qui ont construit un dialogue petit à petit, on s'est aperçu de comment il fallait faire pour que les parents et les enseignants se comprennent vraiment. Qu'il y ait une vraie communication qui s'instaure entre eux. Les parents, par exemple, ont voulu savoir comment les enseignants faisaient dans la classe pour apprendre aux enfants. Pour beaucoup de parents, c'est un peu un mystère. Ils mettent leurs enfants à l'école, c'est des fois eux-mêmes ne savent pas lire et écrire. Comment ça se passe pour qu'un enfant apprenne ? Pour un parent, c'est compliqué à comprendre, et si on veut que le parent soutienne l'enfant pour qu'il réussisse, évidemment, le parent a envie de savoir des choses qui se passent dans la classe.
À chaque moment, on ne savait pas si ça allait se casser la gueule, quoi. Et notamment, moi, j'ai un souvenir comme ça, c'est la première réunion par enseignant. Qu'est-ce qui va se passer à cette rencontre ? Et j'aime bien comparer, il y en a eu 4, hein, réunions de parents enseignants. Le climat de la première, hein, celle de 2007, hein, juin 2007, et puis celle qu'on vient de vivre ici en juin 2011, 4 ans après. La première, on l'avait préparée, hein, mais alors vraiment cadrée, je dirais, parce qu'on voulait pas qu'il y ait de dérapage. Elle a été très riche, hein, je veux dire qu'on peut lire les comptes rendus, mais on était un peu figé, quoi. Hein. Je me rappelle avoir tourné autour de l'école avant pour m'y préparer psychologiquement. Et puis la dernière, qui a duré, je sais pas, 2h30, on n'a pas vu passer l'heure, on a explosé nos horaires parce que la vraie rencontre a eu lieu, quoi. Je veux dire qu'il y a un véritable échange. Je dirais qu'à la limite, à la fin, on ne savait plus qui parlait. Est-ce que c'était un parent, un enseignant, ou on était dans le projet commun ?
Notre rôle à nous, c'est pas de dire à l'enfant « c'est comme ça qu'on fait ». C'est de dire « quand tu es à l'école, tu es dans une société, tu vis ensemble et il y a des règles qui existent, qui sont propres à la vie en société, que ce soit l'école, la rue, enfin que... Peut-être que chez toi c'est différent, ça ne veut pas dire que chez toi c'est pas bien.
On ne remet pas en cause forcément.
Non, on ne remet pas en cause. Mais que l'enfant ne se sente pas, parce qu'autrement il se sent agressé. Si à l'école on lui dit ce que tu fais c'est pas bien, il va dire ça veut dire que mes parents sont nuls.
Ils font mal.
Hein? Donc nous c'est lui dire il y a deux. Quand tu es en société, quand tu es à l'école, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, qu'on n'a pas le droit de faire. Après, quand tu es chez toi, c'est tes parents qui gère
c'est
la situation. C'est d'autres règles.
Il y a des règles à l'école, il y en a à la maison.
Ça peut nous arriver aussi. Voilà, ça peut nous arriver effectivement de penser intérieurement que les règles des parents. Fort. Mais pas comme ça qu'on ferait. Mais réciproquement.
Dans certains domaines, les parents interviennent, les enseignants interviennent. Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque cette idée de éducation partagée, la place de chacun? En partant du postulat que le parent est le premier éducateur de son enfant, de toute façon, on n'oublie pas. Qu'est-ce que ça vous évoque, toutes ces questions-là ?
Je pense qu'on cherche un équilibre, en fait.
Oui,
c'est-à-dire qu'il faut un équilibre pour que l'enfant soit suffisamment posé pour, en équilibre, il sait où il est, il a un cadre, il a compris comment ça fonctionnait, et à partir de là, il peut évoluer, il peut grandir, il peut... Et nous, on est là, on est des tuteurs, en fait. On le soutient, on l'aide à grandir, mais il faut que ces repères-là soient bien solides et vraiment dans l'équilibre pour l'épanouissement. Parce que nous, on rencontre aussi des situations où un enfant, il n'arrive pas, il est bloqué. On lui dit, qu'est-ce qui se passe ? J'ai trop de choses dans la tête.
parce qu'à la maison, c'est pas facile. Donc nous, on est confrontés aussi à ça. Donc dans ce côté éducation partagée, ben, y a vraiment ce côté équilibre en fait, de l'enfant avant tout.
On a pensé qu'il fallait plusieurs années parce que modifier les représentations des parents sur l'école, sur les enseignants, modifier les représentations des enseignants sur qui sont ces enfants, d'où viennent-ils, qu'est-ce que pensent leurs parents. On a pensé que ça ne se changerait pas en 6 mois ou en 1 an ou même en 2 ans, qu'il faudrait beaucoup de temps. Donc on a créé ce projet sur 5 ans et donc il y a eu 4 années scolaires complètes.
Moi, le problème majeur et le plus intéressant et le plus difficile ou le plus étonnant pour certains enseignants, c'est de dire que associer les parents, c'est pas seulement leur dire des choses sur l'école et qu'ils comprennent, et c'est majeur, qu'ils comprennent des choses sur l'école, mais de faire l'hypothèse qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'école et à la classe.
Quelle suite à donner ? Eh bien, c'est réinvestir du point de vue de l'inspection académique, donc en dehors de ce projet, mais alors de continuer à faire perdurer des liens partenariaux, parce que comme la situation est complexe, l'école elle seule ne peut pas y arriver. L'école doit aussi s'ouvrir aux partenaires du quartier.
Je pense qu'on est sur des petites avancées, mais moi je conçois un petit peu le travail des professionnels et tout ce travail sur la parentalité, sur des petites avancées, petites, courtes, modestes, avec quelques parents qui ensuite vont mobiliser d'autres parents sur ces questions-là. Donc on va faire confiance au bouche à oreille. Je pense que voilà, il faut apporter quelques petites billes, avancer ensemble, et après faisons confiance aux parents, ils sauront bien faire les choses.
Donc on a 25 minutes là, donc on est prêt à vous entendre, à réagir, à voir si ça fait écho avec des choses que vous vivez dans vos quartiers, et puis à répondre à vos questions le plus brièvement possible pour que tout le monde puisse parler.